de la première partie du livre La patrie interdite. Cette première partie porte le titre Enfance et comprend une cinquantaine de pages. Paragraphe 1. Je suis arrivé en Bretagne vers l'âge de 2 ans, car je n'y suis pas né. On me l'a reproché. Vous n'êtes même pas breton puisque vous n'êtes pas né en Bretagne, me jetait comme une injure à la face l'un de ces historiens ou chroniqueurs d'entre les deux guerres, dont la préoccupation essentielle était, dans leurs écrits, de torturer les faits et les textes pour démontrer que la Bretagne était deux fois française. Je fus un jour obligé de répondre à l'un d'eux, c'est de Charles Chassé qu'il s'agit, que si j'étais né à Dakar, je n'en aurais pas été nègre pour autant. Est américain tout individu qui possède un passeport américain. Posséder ce document, délivré par une toute-puissante administration, et vous aurez le droit d'être considéré au nombre des élus. Il n'y aurait pas de définition plus stupide que celle-là de la nationalité, au sens où l'entendent les Français, s'il ne s'agissait, dans ce cas particulier, que de la simple définition d'une citoyenneté. Confusion que la pensée et le droit français entretiennent volontairement pour éviter de reconnaître l'existence en France de nationalités qui ne sont pas françaises, la bretonne par exemple. Ni les Bretons ni la Bretagne n'existent aux yeux de la loi. Comme le disait Morvan Lebesque, la Bretagne n'a pas de passeport. Charles Chassé, malgré son attachement au jus soli, n'en voyait certainement pas la nécessité. Il était de ceux pour lesquels le bout de papier, extrait de naissance ou passeport, suffisait. Ouais. Mon bout de papier à moi, je dois aller le chercher à la mairie d'Aignan, bourg modeste de Gascogne, sur la route de Riscle à Vic-Fezensac. C'est là aussi que, 40 ans plus tard, mon père, ayant voulu, au cours d'un voyage qu'il accomplit à un moment où la police française me recherchait pour mes crimes contre la sûreté de l'État, que je prends bien soin de mettre au pluriel, car je ne les compte plus, revoir l'endroit où il avait débuté sa carrière, trouva soigneusement épinglé à la page des actes de l'état civil me concernant une petite note administrative éloquente dans sa concision. Le nommé Fouéré est activement recherché par la police. À Aignan, où personne ne me connaît et où je n'ai vécu que les 2 premières années de ma vie. Étonnante naïveté de la mécanique administrative. J'ai toujours la petite note. Elle figure dans mes archives, avec la cravate blanche magistrale du procureur près de la cour de justice de Rennes, volée par une main amie et anonyme, le jour où il requérait contre moi, dans mon procès par contumace en 1946, pour intelligence avec l'ennemi, mais en réalité pour mon action bretonne. Mes amis occitans, compagnons d'un combat similaire, Guy Hérault, Robert Laffont, Yves Roquette, Yann Houssin, Gustave Allérol et d'autres, ne me reconnaîtront sans doute pas occitan du seul fait que je sois né à Aignan, sans avoir pris le temps d'y vivre et d'en parler la langue. Tout au plus pourrais-je prétendre à une citoyenneté d'honneur de la future Gascogne. Aignan était le premier poste de receveur d'enregistrement confié à mon père, qui, jusqu'alors, n'avait effectué que des remplacements de surnuméraires en Bretagne. C'est au cours de l'un de ces derniers, à Calac, que ma mère et lui s'étaient rencontrés. La tradition de l'administration étant de faire de ses agents des numéros interchangeables, il fallait évidemment envoyer en Gascogne ce breton de pure race et de vieille souche paysanne du pays de Dinan. C'est ainsi que la Bretagne, de son côté, a eu longtemps le privilège des préfets et percepteurs corses. Lorsqu'il eut plus tard pénétré dans les rouages supérieurs de l'administration, mon père eut l'occasion de voir d'en haut la manière dont fonctionnait le système. Il n'arriva jamais à s'y faire. Tout au plus, accepta-t-il comme inévitable, au cours de sa carrière, d'avoir à dissimuler certaines de ses préférences pour avoir plus de chances de ne pas être nommé précisément là où il ne le désirait pas. « Tu n'as pas idée, me confia-t-il un jour, jusqu'où ça va. Suppose qu'un percepteur s'appelle Panier et qu'il existe quelque part à La Réunion ou à la Martinique un chef-lieu de canton qui s'appelle Pomme, eh bien c'est une aubaine. On nommera Panier à Pomme pour que le panier de Pomme puisse faire s'esclaffer pendant 8 jours tous les bureaux du ministère. » C'est ainsi que mon père n'exerça pratiquement jamais de fonction de responsabilité en Bretagne, à part 2 années, à la fin de sa carrière, à la tête de la Trésorerie Générale du Finistère, où il assura, au prix de quelques périls, l'évacuation par mer de l'encaisse de billets et d'or de la Banque de France aux heures tragiques de 1940. Poste d'où l'on s'empressa d'ailleurs de le déloger, sans motif, fin 1941, lorsque j'eus fondé le quotidien La Bretagne, dont les articles n'étaient pas tendres pour les administrations de l'époque. C'est à ce premier poste administratif de mon père que je dus de naître à Aignan. J'ai gardé toujours au fond de mon cœur une reconnaissance à la patronne des Bretons, qui permit à ma mère de me mettre au monde le jour de sa fête. La Sainte-Anne est, avec la Sainte-Yves, la fête de tous les Bretons. C'était sans doute sa manière à elle de se venger des fantaisies de l'état civil et d'affirmer ainsi ma bretonnité. C'était aussi le jour de la fête du pays, m'a raconté ma mère, et la musique des manèges forains jouait sous sa fenêtre, tandis qu'elle me mettait au monde les refrains d'une rengaine de l'époque. C'est l'amour qui flotte dans l'air à la ronde, c'est l'amour qui console le pauvre monde. Il faut beaucoup d'amour, certes, pour faire prendre à un peuple conscience de son destin. Qui pourra jamais sonder le mystère de la vocation de chacun, dire pourquoi certains entendent l'appel, que d'autres le refusent ou le négligent? Dans l'appel qui fut le mien, Aignan ne tient aucune place. J'ai appris à marcher, et à parler avec l'accent coloré du pays que quelques semaines me firent perdre après que je l'eus quitté. J'aimais déjà y déchirer, paraît-il, les affiches officielles de la mairie. La vie s'y déroulait calme pour mes parents, tout à la joie de leur nouveau ménage et de leur premier-né, et malgré la modicité de leur salaire d'alors. Mon grand-père rit beaucoup sous cap, lorsque ma mère lui montra un jour son livre de comptes de l'époque et qui montrait fièrement des économies mensuelles variant de 0 francs 10 à 0 francs 50. Mon père était son unique patron. Il était aussi son unique employé. Les transactions immobilières et les rédactions d'actes étaient rares dans ce pays écrasé de soleil. Le centralisme administratif y avait déjà effectué ses ravages et avait depuis longtemps entrepris de vider le pays. Aignan et les bourgs voisins étaient la contrée de l'Armagnac, comme Roscoff et Saint-Paul sont les pays de l'artichaut. La principale occupation des habitants était les vendanges, la seconde, comme partout, d'essayer de voler l'État. La Bretagne s'est révoltée jadis lorsque Paris voulut lui appliquer un impôt sur le sel. À Aignan, on ne se révoltait pas contre l'impôt sur le vin ou les boissons alcooliques. On employait des méthodes plus subtiles. Lorsqu'il avait affaire à la petite ville voisine de Riscle ou à la sous-préfecture de Mirande, mon père n'était jamais en peine de moyens de transport. Il prenait gratuitement place dans le coupé ou le char à banc du transporteur public. Transporter le receveur de l'enregistrement était une garantie. quel rat de cave aurait eu l'audace de fouiller le véhicule et de faire lever cet estimable fonctionnaire pour découvrir le baril d'Armagnac au-dessus duquel on l'avait gravement assis. Point, paragraphe 2. Bretons tous deux, éloignés de leurs familles respectives par une distance beaucoup plus considérable qu'elle ne l'est aujourd'hui, mes parents ne pouvaient considérer Régnan que comme un exil nécessaire. Aussi mon père, ayant passé le concours d'inspecteur de l'enregistrement, s'empressa d'utiliser cette promotion pour se rapprocher de son pays. Il eut la bonne fortune d'être attaché à la direction de l'enregistrement de Rennes et transporta ainsi sa résidence dans cette ville. Il n'y resta pas longtemps, puisqu'il fut mobilisé au début de 1915. Nous non plus, ma mère, ma sœur et moi, puisque dès le départ de mon père, nous nous repliâmes à Calac, chez mes grands-parents maternels. De Rennes, je conserve quelques-uns de mes premiers souvenirs d'enfant. La naissance de ma sœur, les promenades familiales au Tabor, le petit jardin de l'impasse de la Croix-Carrée, qui n'était pas encore inhumainement écrasé par d'énormes immeubles. Elle avait même conservé un petit caractère campagnard. Les champs ne commençaient pas loin de là. Leur calme s'étendait jusqu'à nous. Quoi encore ? Le grand figuier du jardin, dont nous faisions la récolte, et les pleurs de ma mère, pour moi difficilement compréhensibles, qui me frappèrent comme une catastrophe lorsque mon père lui annonça sa mobilisation prochaine. Mais c'est Calac qui fut réellement le cadre de mon enfance, celui où j'allais m'éveiller au monde et à la vie. C'est là que j'ai réellement senti et vécu physiquement la Bretagne. C'est Calac sans doute qui plus tard rendit pour moi possible et irrésistible l'appel de mon pays. Le Calac d'aujourd'hui n'est plus celui d'autrefois. Les champs y commençaient presque en plein bourg. Le Kostang, la rue du cimetière et celle de la fontaine s'ouvraient tout de suite sur la campagne. Mais le cœur de la petite ville, la place du centre et la rue de l'église ne sont pas sensiblement différentes de ce qu'ils étaient lorsque je les ai connus pour la première fois. Les gens et les esprits, les manières de vivre, y ont changé beaucoup plus que les pierres et les façades de granit gris de leur maison. À l'automne, on faisait encore le cidre dans la rue où l'on installait le pressoir. Aubaine pour tous les gamins du pays, qui venaient tous avec une paille, goûter le succulent jus de pomme, à même les rigoles du pressoir qui le recueillait. La rue de l'église reste toujours pour moi inséparable de la bonne odeur de café vert que grillait notre voisin, tournant à longueur de journée au-dessus d'un feu de charbon de bois le cylindre de son rôtisseur primitif. Rue de l'église, on rencontrait souvent Francine, la mendiante, qui logeait quelque part dans les faubourgs et qui venait, vêtue de son éternelle jupe de pilou et de sa courte pèlerine noire, la coiffe un peu de travers, faire avec sa besace sa tournée en ville. Elle était simple d'esprit et souvent l'objet des plaisanteries mal intentionnées des gamins que nous étions. Elle était guère plus grande que l'un d'entre nous, les yeux cernés de rouge par une éternelle conjonctivite. Contre quelques centimes, elle ne refusait jamais de danser une sorte de pilarlam, accompagnée d'une incantation bretonne incompréhensible que ses lèvres laissaient échapper. Il n'y avait pas encore à Calac de service d'eau ou de tout à l'égout. Les bonnes, comme on les appelait alors, et qui sont devenues les employées de maison, nombreuses à l'époque, allaient chercher à la fontaine des seaux d'eau fraîche. Elles en ramenaient deux à la fois, stabilisé par une sorte de carré de bois léger qui servait à écarter les anses de chaque côté du corps. Leur course durait longtemps, interrompue qu'elle était par de longues causettes. Les salles de bain étaient évidemment inconnues, comme elles l'étaient alors presque partout, même dans les grandes villes. Une fois par quinzaine, ma sœur et moi, nous nous baignions devant le feu ou le fourneau, dans une sorte de grande bassine en zinc, basse, ronde et large, que l'on remplissait d'eau chaude et où l'on pouvait s'asseoir. On appelait cela un tube, terme étranger, qui devait sans doute signifier qu'il s'agissait là d'un ustensile très moderne. Ce fut le premier mot anglais que j'entendis prononcer avant qu'un détachement américain ne vint cantonner à Calac vers la fin de la Grande Guerre et que ses soldats ne deviennent des visiteurs assidus, attirés par les jupes des employés de ma grand-mère. Les marchés du mercredi attiraient à Calac une foule beaucoup plus considérable qu'aujourd'hui. Toute la paysannerie d'alentour s'y donnait rendez-vous. Les femmes en châle noir et en coiffe du Trégor qui se portaient à Calac y côtoyaient celles de Carnoët et de Locarne, aux coiffes de dentelles rondes et aux corsages de velours déjà cornouaillaises. Le chapeau rond noir, rattaché par un élastique au-dessus de la tête, et la chemise blanche empesée, les cheveux coupés très courts, distinguaient les cornouaillers de la montagne des paysans de la partie nord du pays. Ces derniers avaient déjà adopté la casquette ou le chapeau de feutre. Calac était ainsi la limite de deux mondes et le champ de foire où ils se rencontraient. Au nord, les landes de Plourach et la forêt de Beffou ouvraient sur la plaine du Trégor, balayées des fleuves marins. Au sud, à la sortie de la ville, les premiers contreforts de la Cornouaille des Monts s'élevaient déjà, sévères sous les grisailles de la pluie, âpres dans leur solitude, balayées de vent. Au marché hebdomadaire de Calac, Trégor et Kerné bretonnaient bruyamment ensemble. Les cafés regorgeaient de monde. On pouvait à peine passer dans les rues, transformées en une vaste étable. Maquignons et paysans y évaluaient les bêtes et les soupesaient de l'œil. Veaux, vaches, bœufs et cochons se partageaient les diverses sections de la foire. Sur la place du centre, les boutiques foraines ouvraient leurs étals, offrant les marchandises les plus diverses. Sur les trottoirs de la place et le long de la rue de l'église, les paysannes offraient leur beurre, leurs œufs et leurs poulets. La pharmacie de mon grand-père, qui ouvrait sur la place, les magasins de ma grand-mère, où se côtoyaient par section mercerie, draperie, quincaillerie et articles de mélange, qui ouvraient sur la rue de l'église, étaient pleins à capacité. Jour béni pour nous, on n'avait guère le temps de s'occuper de nous. Nous pouvions nous mêler aux scènes de la rue avec les autres gamins de notre âge, les souliers souvent couverts de boue et de bouse, les tabliers malodorants. Calac était envahi par son arrière-pays. La ferme et ses odeurs, ses travaux et ses bruits, les cris de ses animaux et les jurons de ses hommes remplissaient nos oreilles, nos narines et nos yeux. Du fait de la situation de la pharmacie et des magasins, nous vivions au premier étage. Même le salon s'y trouvait. Seule la salle à manger, à laquelle on accédait par un couloir vitré venant de la pharmacie, se trouvait au rez-de-chaussée. La salle à manger, encore plus que la pharmacie, était le domaine de mon grand-père, qui y régnait en maître. Plus loin se trouvaient l'office et les cuisines. On y menait grand bruit, car les employés du magasin et de l'atelier de confection, on disait alors les factrices, y prenaient leur repas. Nous n'avions d'autre sortie que la place et la rue, souvent théâtre de nos jeux après la sortie de l'école. Mais il y avait le grand grenier mystérieux où nous n'osions entrer qu'en tremblant, plein de choses étranges et d'inépuisables découvertes. Je plains les enfants d'aujourd'hui, habitants de nos villes monstrueuses, et de leur caserne à vivre, de n'avoir pas ce refuge. Comment peut-on apprendre à rêver et à s'émerveiller lorsque l'on est confiné dans les quelques mètres carrés de nos appartements modernes? Comment même apprendre à vivre dans ces cages à lapins que l'on veut nous représenter comme le progrès. La vie ne se résume pas à ce que l'on croit communément qu'elle est. Le rêve, l'infini, l'espace, ils sont aussi nécessaires que l'air, l'eau et le pain. Et puis il y avait, de l'autre côté du square de l'église, en face du presbytère, les anciennes écuries et la basse-cour que prolongeait un grand jardin. Plus tard, ce jardin campagnard deviendra mon refuge au temps des vacances, mon havre de repos où j'aimais m'isoler pour écrire, lire et rêver. Lorsque je l'ai connu, la basse-cour et les bâtiments utilisés pour les chevaux et le char à bancs étaient déjà presque abandonnés. Mon grand-père, qui avait été un grand pêcheur, grand chasseur et grand coureur de landes, ne sortait plus guère. Il avait été en son temps à la pointe du progrès et des idées nouvelles. Ce fut lui qui utilisa à Calac la première bicyclette, au grand effroi des femmes du pays, qui ramassaient leurs enfants lorsqu'elles le voyaient venir. Il n'avait remplacé ni sa bicyclette ni son cheval, et n'avait conservé de son passé de chasseur que quelques-uns de ses épagneuls bretons, dont l'élevage a constitué et constitue toujours l'une des principales richesses de Calac. Mais il restait dans la basse-cour quelques oiseaux étranges qui faisaient notre émerveillement d'enfant. Pintades, faisans, dindons et paons. Grand gourmet, mon grand-père aimait les espèces rares et les morceaux de choix. Aussi souffrait-il d'une goutte tenace qui ne lui laissait guère de répit. Le programme de la journée de mon grand-père Liégard, à l'époque où je suis arrivé à Calac, était immuable. Il ne s'occupait plus guère de sa pharmacie, à part les jours de marché, et en laissait la direction, comme celle des affaires en général, à ma grand-mère, d'une bonne dizaine d'années plus jeune que lui, et dont l'activité et l'énergie étaient remarquables. Levé tard, après avoir pris son petit déjeuner au lit, servi par ma grand-mère, il se mettait à table à 11h30, heure à laquelle il devait être servi ponctuellement. Il n'attendait personne. Il était sur le choix et la préparation des plats extrêmement exigeant. Il lui arrivait de donner son assiette à son chien s'il n'en trouvait pas le contenu à son goût. Épicurien, vieillissant et sceptique, il ne semblait tirer de satisfaction vers la fin de sa vie que dans la perfection des repas, les joies intellectuelles solitaires qu'il retirait de ses lectures et les quelques heures qu'il consacrait à ses petits-enfants. Il nous gâtait outrageusement. Le repas terminé, soit peu après midi, toute la famille, mon grand-père, ma grand-mère et ma mère, se mettaient en branle pour aller rendre la visite quotidienne à la grande-grand-mère et à l'oncle Joson. Mon grand-père prenait dans chacune de ses maisons le petit verre traditionnel, souvent d'ailleurs de sa fabrication. On y échangeait les nouvelles, celles de la famille, celles de Calac et celles de la guerre. Puis mon grand-père rentrait, sa tribu sur ses pas, pour en général se réfugier dans sa chambre ou dans le salon, où il faisait de la chaise longue et lisait le reste de l'après-midi. Ma sœur et moi suivîmes dès que nous fûmes en âge. Nous adorions cette promenade qui empruntait un chemin immuable par la petite allée sonore derrière le presbytère jusque chez la grande grand-mère qui vivait dans une petite maison basse et baignée de soleil au fond d'un jardin rempli de fleurs. Puis, à travers champs, jusqu'au jardin de l'oncle qu'une charmille énorme pleine d'ombre et de mystère embellissait. Enfin, évitant la rue de la Fontaine, à travers le jardin de l'école des garçons, qui nous ramenait ensuite par le square de l'église, vers la rue et la place. La vie s'écoulait calme et rectiligne, à peine secouée par les orages d'une guerre lointaine, qui lui servait de toile de fond et dont on n'apercevait pas la fin. Elle vint pourtant. C'est au cours d'une de ces promenades, dont la mort subite de mon grand-père en 1915, n'avait pas interrompu la tradition, que nous l'apprîmes juste en arrivant chez l'oncle Joson, maire du pays, qui venait d'en être averti par un télégramme officiel. Médecin, il était une des rares personnes à posséder un téléphone. Ma sœur et moi étions déjà retournés jouer dans la cour lorsque le garde-champêtre, convoqué en hâte par messager spécial, arriva voir le maire. Il ne nous crut pas lorsque nous lui criâmes à son arrivée « La guerre est finie, la guerre est finie ». Quelques instants après, il ressortait en courant de la maison, oubliant dans sa précipitation ses sabots sur le seuil. Moins de 10 minutes plus tard, les cloches se mirent à sonner, remplissant le ciel d'un océan sonore dont les ondes se répercutaient de clocher en clocher par les vallées et par les champs. L'église se remplit de monde, les écoles se vidèrent, tandis que des cantiques d'actions de grâce montèrent vers le ciel. J'avais depuis quelques mois dépassé mes 8 ans. Paragraphe 3. La grand-mère Quéré, celle que nous appelions la grande-grand-mère, puisqu'elle était la mère de ma grand-mère, était vraiment la matriarche dans une famille où les hommes mouraient jeunes. Elle était immuable comme le clocher de l'église. Grande et droite, le visage encadré des ailes de sa coiffe, le châle noir du Trégor autour des épaules, le tablier noir brodé autour de la taille, dans la poche duquel elle ramassait sa tabatière, car elle prisait, elle avait dû vieillir tout d'un coup, bien avant que je ne l'aie connue. Elle avait cessé de vieillir depuis. Ma mère elle-même ne se rappelait pas l'avoir vue autrement qu'elle n'était. Bonne et d'abord aimable, elle était autoritaire et tenait par-dessus tout à son indépendance. Elle refusait toujours de demander quoi que ce soit et ne se plaignait jamais. Les dernières années de sa vie, qu'elle n'avait pas prévues aussi longues, furent assombries par des difficultés matérielles. Elle avait survécu à presque tous ses enfants, à part ma grand-mère et une autre de ses filles, et notamment à son fils, le docteur Quéré, l'oncle Joson, le seul frère de ma grand-mère. C'est de la grande-grand-mère sans doute que nous tenons le grand désir d'indépendance qui est le nôtre, et la volonté de nous suffire à nous-mêmes et de ne devoir aux autres que le moins possible. Elle était née en 1838, mais j'avais 20 ans lorsqu'elle mourut, dans sa 92e année. C'est dire combien je l'ai connue et comme elle a marqué mon enfance. Elle parlait volontiers du passé, du Calac d'autrefois, de la Bretagne qu'elle avait connue en ses jeunes années. Je l'écoutais avidement. Elle était mon lien vivant avec l'histoire. Je m'émerveillais qu'elle ait pu parler à des gens qui avaient connu la Bretagne avant la Révolution et son annexion totale à la France. Elle se rappelait le temps qu'il avait fait le jour où était parvenue en Bretagne la nouvelle de la Révolution parisienne de 1848, et que c'était ce jour-là que la chapelle bâtie sur le mont Saint-Michel, sur la route de Saint-Servais, s'était effondrée sous les assauts de la tempête. Originaire de Logivy-Plougras, la grande-grand-mère avait été élevée par sa propre grand-mère, ambroisine de Kergeriou du Cosquet, de vieille et modeste noblesse campagnarde. Cette dernière, sous la Révolution, avait épousé un roturier, un nommé Bricon, minotier de son état, non suspecte d'hostilité aux idées nouvelles. La tradition familiale assure qu'il avait été son geôlier avant de devenir son mari. La grande-grand-mère devait, en reconnaissance, donner ce nom d'Ambroisine à ma grand-mère, sa fille aînée. Sous le Second Empire, elle avait en effet épousé, fort jeune encore, Olivier Quéré, officier de santé, originaire de Pomerite-le-Vicomte. Le jour même de ses noces, elle était arrivée à Calac à cheval, ayant voyagé en croupe derrière son mari. Les routes, alors, étaient rares, en dehors de celles qu'empruntaient les chaises de poste de Guingamp à Carhaix. Elles étaient la plupart du temps des pistes ou des chemins de terre, qui reliait les hameaux perdus dans les vallées ou sur les contreforts des monts. Le jeune docteur Olivier Quéré faisait à cheval toutes ses tournées médicales. Il en mourut d'ailleurs prématurément, s'étant fracturé quelques côtes après une chute. Une tuberculose s'ensuivit, qu'il refusa de soigner, estimant que ses malades ne pouvaient être privés de ses soins. Il suivit les progrès de sa maladie avec lucidité et laissa sa femme veuve à moins de 45 ans, ses enfants heureusement pratiquement tous élevés ou mariés. Son fils, le docteur Joson Quéré, allait prendre sa suite. Dès lors, la grande-grand-mère s'installa dans un veuvage austère qui dura plus que n'avait duré sa vie antérieure. Je ne me souviens pas de l'avoir vu autrement qu'en noir, sa coiffe blanche mise à part. Pour se rendre à l'église le dimanche, elle revêtait souvent sa grande cape et sa capuche de deuil ornée de velours noir. La réputation du docteur Olivier Quéré, médecin des pauvres, et son souvenir étaient encore bien vivants à Calac, plus de 30 ans après sa mort, lorsque j'y suis moi-même arrivé. Je conserve précieusement dans mes archives son diplôme d'officier de santé délivré par l'Université impériale. Il l'avait courageusement conquis. Il était d'une famille nombreuse et modeste qui ne pouvait subvenir autrement entièrement à ses études. Il dut gagner par son travail l'appoint nécessaire. Pommerite était voisin de la mer et Paimpol était alors un port de pêche relativement prospère qui armait à la morue sur les côtes d'Islande et de Terre-Neuve. Olivier Quéré fit plusieurs campagnes sur les morutiers de Paimpol en double qualité